Alors vous avez tous pu lire ce verset de la Bible que Christophe et Aurélie ont choisi de faire figurer sur leur faire-part de mariage et aussi sur les programmes. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Effectivement, il y a bien des raisons aujourd'hui, en ce samedi 9 juillet 2016, des raisons évidentes de se réjouir. Sauf que, pendant que Christophe et Aurélie se disent oui, sous nos regards attendris, eh bien aujourd'hui, ailleurs en France, 9 personnes vont perdre la vie dans un accident de la route. 45 dans des accidents domestiques. 410 personnes aujourd'hui seront emportées par leur cancer. Avant la fin de cette journée, 540 personnes en France auront tenté de se suicider et 27 auront réussi. 538 plaintes aujourd'hui auront été déposées pour violence conjugale. Et 340 divorces auront été prononcés avant ce soir. Dans le monde, 13 000 enfants de moins d'un an auront perdu la vie aujourd'hui. Et le trafic d'êtres humains, en cette seule journée, aura produit plus de 90 millions de dollars de bénéfices. C'est une chouette journée, n'est-ce pas? Vous êtes content d'être venu, vous êtes content de m'avoir invité à apporter le message. Hein. Alors quand on lit ce type d'exhortation dans la Bible, que cette journée soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. On se dit, ça c'est typique de la religion, de la pensée positive. On se berce d'illusions au lieu de regarder la réalité en face. Et Christophe et Aurélie, en nous invitant tous ici à être témoins de votre union et de vos engagements l'un avec l'autre, on pourrait vous reprocher de vouloir faire de nous les complices de votre naïveté en quelque sorte. Parce que vous êtes bien mignons à vouloir invoquer Dieu dans votre mariage, alors que Dieu... il semble être plutôt débordé par le monde qu'il a lui-même créé. On a du mal à voir en ces promesses que vous allez vous échanger, eh bien autre chose que des vœux pieux, quand on considère et quand on constate qu'on vit dans un monde impitoyable et que le mariage en particulier, c'est quelque chose de parfois difficile, souvent compliqué et même douloureux à la fin. Est-ce qu'on peut vraiment se réjouir de cette journée ? Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt annuler cette cérémonie et passer directement au vin d'honneur dans lequel on pourrait noyer notre désespoir? Alors ne partez pas si vite, parce que ce que vous ne savez pas forcément, c'est que ce verset de la Bible que Christophe et Aurélie ont choisi pour aujourd'hui, ce verset de la Bible a un contexte particulier. Et quand on regarde ce verset dans son contexte, on peut voir que ce verset, en fin de compte, c'est pas une sorte d'auto-persuasion primitive, mais bien au contraire, ce verset témoigne du réalisme exceptionnel de la Bible. Alors, je vais m'expliquer. Ce verset est tiré d'un texte qu'on appelle un psaume, c'est un genre de poème que l'on trouve dans l'Ancien Testament. Et ce poème présente un motif particulier qu'on retrouve d'ailleurs dans l'ensemble de la Bible. Ce motif, c'est le suivant. Mauvaise nouvelle, mais bonne nouvelle. Mauvaise nouvelle, mais bonne nouvelle. Autrement dit, la joie du poète qui écrit cette phrase, c'est pas une joie autoproclamée qui tomberait mystérieusement du ciel, mais c'est la joie qui résulte d'une bonne nouvelle qui arrive dans le contexte de mauvaise nouvelle. C'est un peu comme ces blagues que vous connaissez tous, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que je vous ai amputé la mauvaise jambe, mais la bonne nouvelle, c'est que votre voisin de chambre veut bien vous racheter vos chaussures. Et donc vous voyez, dans ce genre de blagues, on a une mauvaise nouvelle qui met en contexte, qui contextualise, qui met en perspective la bonne nouvelle. S'il n'y avait pas la mauvaise nouvelle, la bonne nouvelle serait peut-être même pas une bonne nouvelle. Mais en l'occurrence, parce qu'il y a une mauvaise nouvelle, il y a une bonne nouvelle, et la bonne nouvelle donne lieu à de la joie. Et ce que je suis en train de dire ici, c'est que dans ce passage de la Bible, l'auteur ne fait pas semblant que tout va bien. Au contraire, si on lisait l'ensemble de ce poème, de ce psaume, on verrait que l'auteur, dans ce même poème, parle de détresse et d'ennemis et de guerre, de danger, de disputes, de pièges et de morts. Et c'est dans ce contexte-là qu'il est amené à exprimer sa joie parce qu'il s'est passé quelque chose qui, étant donné la réalité du mal qui l'entoure, le console, l'encourage et le réjouit énormément. Alors c'est quoi cette information? décisive. C'est quoi ce retournement de situation qui change toute la vision du monde de cet homme? Qu'est-ce qui peut nous permettre à nous aujourd'hui de nous réjouir de cette journée malgré les malheurs auxquels nous sommes confrontés en permanence, souvent de loin, mais parfois de près? Je suis persuadé que plusieurs d'entre nous ici, nous pourrions témoigner de ce genre de malheur qui nous touche de près. Qu'est-ce qui peut conditionner votre perspective, Christophe et Aurélie, sur votre couple, sur votre mariage, sur votre foyer, de façon à avoir ce genre de joie quotidienne et durable, malgré les disputes, les frustrations, les blessures, les incompréhensions, malgré les difficultés financières, malgré la maladie, malgré les accidents de la vie, voire même les pires tragédies qui pourraient arriver? Quel est le secret de l'auteur de ce verset que vous avez choisi pour votre mariage? Quel est son secret? Eh bien, son secret n'est pas un secret. Parce qu'en fait, le poète nous renvoie ici directement au cœur même du message de toute la Bible. Et la Bible, c'est le plus grand best-seller de toute l'histoire de la littérature. Donc, ce n'est pas un secret. Et ce message, c'est le suivant. Dieu est intervenu dans notre monde pour nous sauver. Dieu est intervenu dans notre monde pour nous sauver. Oui, nous vivons dans un monde déchu, un monde dysfonctionnel, en proie à l'injustice et à la souffrance. Et oui, nous-mêmes, les êtres humains, nous sommes principalement responsables de cette situation parce que nous sommes nous-mêmes des êtres dysfonctionnels, égoïstes, impatients, cupides, souvent malhonnêtes, parfois cruels, qui cherchons par nature à vivre indépendamment de Dieu qui nous a créés, qui cherchons à vivre selon nos désirs, nos passions, nos intérêts propres. Et dans ces conditions, il est normal que le mariage en particulier représente une vocation difficile, par moments en tout cas. Ça, c'est le réalisme de la Bible. Mais le Dieu, créateur du monde et des êtres humains, d'après la Bible, n'a pas abandonné sa création. Au lieu de cela, Dieu s'est retroussé les manches, en quelque sorte, et à un prix que lui seul pouvait payer, il a fait tout ce qu'il fallait pour remédier à cette situation catastrophique. Dieu s'est approché en personne, par Jésus-Christ. Dans un souci de compassion, il a pris sur lui la condition des hommes. Il a été jusqu'à souffrir l'agonie aux mains des hommes. Il a souffert à tout point de vue, en fait, physiquement, émotionnellement, spirituellement, même on pourrait dire relationnellement. Et il est mort sur la croix, vous connaissez cette histoire. Mais voici la bonne nouvelle qui procure tant de joie à l'auteur de ce verset. Le troisième jour, Jésus-Christ est ressuscité. Il a triomphé du mal et de la mort. Il a accompli avec succès sa mission de délivrance. La Bible dit que la dette que les hommes devaient à leur Créateur pour avoir voulu vivre indépendamment de lui, eh bien cette dette monumentale, Jésus l'a réglée à notre place, sur la croix, de façon à ce que tous les gens qui se confient en lui, c'est-à-dire qui ont foi en lui, qui lui font confiance au point de le suivre, tous les gens qui se confient en Jésus-Christ reçoivent gratuitement le pardon de Dieu et sont réconciliés avec Dieu pour toujours. Les croyants, vous voyez, entrent ainsi au bénéfice d'une espérance extraordinaire. Non seulement qu'ils sont en bon terme avec Dieu, mais aussi que Dieu, qui a ressuscité Jésus-Christ, a commencé chez les croyants une œuvre de réparation en quelque sorte. Et aussi que Dieu va un jour rétablir toute sa création, pleinement et définitivement, en la purgeant de tout mal, en corrigeant toute injustice un jour et en consolant toute souffrance. Et en faisant de cette terre parfaitement renouvelé, le lieu où les croyants vivront en communion parfaite avec Dieu et les uns avec les autres pour toute l'éternité. Espérance extraordinaire. Et c'est pour ça que si on en croit la Bible, en tout cas, si on en croit la Bible, on peut se rallier sans réserve, sans hypocrisie, à la joie de l'auteur de ce verset. Christophe et Aurélie, la conclusion de ce verset est simple. Parce que je sais que tous les deux, vous avez une foi vivante en Jésus. Parce que je sais qu'en dépit des préjugés qu'on a sur les scientifiques et la religion, vous, vous professez sans rougir la résurrection corporelle, historique de Jésus-Christ. Eh bien, parce que je sais ces choses, je peux vous dire, vous affirmer que vous êtes parfaitement équipés pour affronter ensemble la vie avec toutes ses difficultés. Parce que Jésus est mort et ressuscité, le monde n'est plus le même et vous le savez. Il y a quelqu'un qui est plus fort que le mal. C'est votre sauveur personnel et le Seigneur de votre foyer. Voyez, il y a des mauvaises nouvelles, mais une bonne nouvelle. Et en raison de cela, parce que Dieu est intervenu dans notre monde pour nous sauver, eh bien, Aurélie, tu vas pouvoir chérir ton mari, lui pardonner, le respecter, le suivre, le soutenir, même quand il te semblera insensible et qu'il te tapera sur les nerfs. Et Christophe, même si par moment tu auras l'impression qu'Aurélie est égoïste ou exigeante ou irrationnelle, tu vas pouvoir lui pardonner à ton tour, tu vas pouvoir la respecter, la soutenir, pourvoir à ses besoins et l'aimer au détriment de tes intérêts personnels. Pourquoi ? Mais parce que Jésus est mort et ressuscité. Et parce que Jésus est mort et ressuscité, chaque jour de votre vie et dorénavant chaque jour de votre vie de couple marié, y compris ce jour-ci, est un jour de grâce, un jour de grâce. Mauvaise nouvelle, oui, mais bonne nouvelle. Et c'est ce qui fonde le réalisme et la joie des chrétiens. C'est donc aujourd'hui, et demain, et après-demain, et après-après-demain, la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour vous, Christophe, Aurélie, et nous tous assemblés, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Amen. Prions. Merci notre Dieu, notre Père, notre Créateur, de ne pas nous avoir abandonnés à cette condition déchue, dysfonctionnelle qui était la nôtre. Et merci d'être intervenu dans notre monde pour nous sauver par Jésus-Christ. Augmente notre foi en toi et notre reconnaissance pour ce que tu as fait pour nous. Amen. Amen.